Arnaud Desjardins, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur et producteur de télévision, diplômé de Sciences Po, titulaire d'un DEA de sociologie, mais surtout, en 1965, vous avez rencontré un maître hindou, Swami Prajnanpad, et cette rencontre a radicalement changé votre vie. Et depuis, vous transmettez son enseignement et ce que vous en avez retiré à travers de nombreux ouvrages qui sont traduits dans plusieurs langues. Et vous avez effectivement un rayonnement très important. Moi, je vous connais depuis longtemps. Je dois vous dire que lorsque j'avais 15 ou 16 ans et que je commençais à m'intéresser à la spiritualité après avoir lu les dialogues de Platon, ben vous êtes un des premiers auteurs que j'ai découvert. J'ai découvert Les Chemins de la Sagesse, qui était une série de livres d'entretien que vous aviez réalisé, et ça a joué un rôle très important dans mon propre cheminement. Donc j'en profite pour dire publiquement merci à l'auteur Arnaud Desjardins, qui m'a beaucoup touché lorsque j'étais adolescent. Et puis j'ai eu l'occasion de lire d'autres ouvrages de vous par la suite, notamment vous avez fait un très beau livre en relisant les évangiles, où vous montrez une redécouverte du message évangélique à travers tout ce parcours que vous avez fait avec l'Inde. Vous avez été également connu, beaucoup de gens vous connaissent à travers les émissions de télévision sur les notamment les Tibétains, le message des Tibétains. Vous avez été un des premiers occidentaux à rencontrer le Dalai Lama après son exil en Inde.
63.
En 63.
J'ai rencontré sa sainteté en 63. Nous étions beaucoup plus jeunes tous les deux.
Et ça a été une rencontre aussi, j'imagine, très importante, qui a beaucoup compté, ainsi que d'autres grands maîtres tibétains,
oui,
que vous avez fait venir en France. Et après, vous avez joué un rôle assez important pour favoriser, je dirais, le développement du bouddhisme tibétain en France. Vous avez même donné, je crois, un de vos lieux où vous avez été au Bost, qui est devenu un centre tibétain de retraite.
Ah oui, oui.
Absolument. Donc il y a des liens avec tous les courants un peu spirituels et mystiques des grandes traditions. Moi, c'est ça qui me frappe dans votre parcours, c'est que vous êtes œcuménique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que vous intéressez à la profondeur de l'être. Et dans cette profondeur, ben, vous rencontrez des mystiques soufis, vous rencontrez des grands sages hindous, vous rencontrez des moines chrétiens. Finalement, vous êtes, oui, un peu au cœur de toutes les traditions à travers la recherche de la sagesse.
Et vous n'avez pas mentionné,
mais j'allais le faire,
les soufis en Afghanistan,
voilà,
avant que les tragédies s'abattent sur ce malheureux pays. J'ai connu un Afghanistan que j'ai beaucoup aimé, un peuple afghan accueillant, chaleureux, ouvert, et des maîtres soufis en 1967, pendant plusieurs mois, puis de nouveau en 1973, des maîtres soufis complètement convaincants, et leurs disciples aussi, des disciples impressionnants. Mais ces maîtres soufis ont été, vraiment, j'ai les informations par des Afghans, ou pendus, ou fusillés, dès que le régime communiste a pris le pouvoir, comme élément réactionnaire ou... C'est tragique.
De manière générale, les mystiques ont eu beaucoup à souffrir dans leur propre tradition. On pense aux martyrs d'Al-Hajj,
oui,
on parlait de soufis. Les mystiques dérangent un peu et les politiques et les institutions. C'est assez courant, finalement,
hélas,
de mal finir quand on a une, oui, vie spirituelle qui est un témoignage. Et c'est ça qui m'intéresse dans tous les gens que vous avez rencontrés, c'est qu'il y a une très grande tolérance, une très grande ouverture. C'est-à-dire que plus on va loin dans la profondeur, plus on est ouvert aux autres.
Ah, ça, c'est vraiment ce qui m'a saisi. Bon, au fil des années, j'ai beaucoup lu. Mais ce qui a le plus marqué mon propre parcours, ma propre existence, ce sont des rencontres avec des êtres humains vivants. Et ce dont je peux témoigner, c'est l'ouverture, la tolérance immense, non seulement des maîtres hindous, ça c'est assez connu, mais de certains chrétiens, surtout dans l'esprit du concile, du dernier concile, mais également dans l'islam, très très ouvert. Je me souviens d'un maître soufi que j'aimais beaucoup, super musulman, et à qui j'ai dit, si je convertissez à l'islam, complètement. Vous seriez heureux. Et il me répond, riant, vous êtes baptisé chrétien, vous avez un maître hindou et ça ne vous suffit pas. Voilà, il ne m'a pas dit, oh oui, un jour Dieu vous éclairera et vous rejoindrez l'islam, Mohammed est le sceau des prophètes. Non. Et un autre maître m'a dit, vous acceptez l'idée de vous soumettre à la volonté de Dieu et non pas à la vôtre? Oui, 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 tout à fait. Eh bien, musulman, muslim, ça veut dire soumis. Vous êtes musulman de cœur. Vous voyez, c'est une toute autre approche. tellement ouverte.
Ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'universalité, finalement, de la quête spirituelle, quels que soient les courants ensuite et les traditions.
Ce dont je peux vraiment témoigner, c'est que ce qui fait le maître spirituel authentique, ou le sage, c'est un état stable de paix. De paix, même dans les pires conditions, comme les grands Rinpoche tibétains réfugiés en Inde. De paix, de joie et d'amour sans contraire, absolu. Même plus question d'aimer les ennemis, c'est l'amour. Je n'ai pas senti que j'étais aimé d'un amour chrétien par Don Emmanuel Coutan, abbé de l'abbaye trappiste de Bellefontaine en Vendée, que j'étais aimé d'un amour musulman par Khalifa Sahib et Charikar, aimé d'un amour hindou par Swami Ramdas, ou aimé. Non, la paix, c'est la paix profonde, réelle, qui émane et dont se sent même imprégné. Cet état heureux, la joie dans des conditions tragiques. Les grands Rinpoche tibétains n'ont pas été tout de suite connus par les Occidentaux. Il n'y avait que le Dalai Lama qui était un peu connu. Il vivait dans la misère en Inde. Heureux. Heureux, tout le temps, heureux. Donc, la paix, la joie, l'amour ou la compassion, pour moi, c'est universel. Ah, ça, c'est une paix chrétienne. Ne confondez pas avec une paix musulmane. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des différences théologiques importantes, mais qu'on peut considérer comme une source de richesse et pas de conflit.
Alors, tous ces êtres que vous avez rencontrés, ils avaient fait un long cheminement intérieur. Et ça nous amène à aborder la question centrale de votre dernier livre qui sort ces jours-ci chez Albin Michel, Arnaud Desjardins, dialogue avec le philosophe Jean-Louis Ciani. Donc, oui, chacun de nous peut se transformer. C'est le thème, évidemment, clé de la vie spirituelle, telle que vous l'avez vécu vous-même, rencontré à travers tous ces grands témoins. C'est qu'on est appelé, vous nous dites, à évoluer, à progresser.
Oui, et ce qui était intéressant dans cette rencontre avec Jean-Louis Ciani, dont j'avais lu un livre de la philosophie comme remède au chômage. J'avais apprécié ce livre, je lui avais écrit, et ça a été l'origine de nos rencontres. C'est que lui représente le point de vue européen ou occidental, et je vois bien combien j'étais imprégné du point de vue oriental. Et il y a, du point de vue du philosophe, enfin en tout cas celui qui a une grande érudition en matière de philosophie occidentale, il y a une certaine réticence à l'idée d'une transformation fondamentale, qu'on a appelé éveil, qu'on a appelé libération, qu'on a appelé illumination. Donc le thème du livre, c'est que, je disais, nous sommes appelés non seulement à changer, on dit souvent « oh, on ne change pas sa nature ». Non, ce qui est spécifique de la nature de l'homme, par rapport à un animal même intelligent, comme un berger allemand, c'est la possibilité de changer. C'est ce qui fait l'homme, de se représenter autre que l'on est et de changer. Mais il y a un mot plus fort que changement, c'est transformation, métamorphose, avec l'image connue de mourir à un niveau pour vivre à un autre niveau. Si le grain ne meurt, il ne produira pas de fruits. S'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Et une image connue depuis toujours de métamorphose, c'est l'image de la transformation de la chenille en papillon. Alors moi, je plaidais la cause dans nos discussions amicales d'abord et ensuite qui ont pris la forme d'un livre, de cette transformation qui est plus qu'un changement. Et Jean-Louis Ciani, lui, son idée, c'est, enfin je ne peux pas parler pour lui, mais c'est d'assumer la condition de chenille, d'assumer d'aller jusqu'au bout, de vivre parfaitement cette condition de chenille au lieu de rêver de se transformer en papillon. Je résume un peu.
Donc c'est toute la tension qu'il y a dans ce livre.
C'est ce qui est assez intéressant. En même temps, il avait une générosité, une ouverture pour essayer de me comprendre.
Vous allez nous dire pour nos auditeurs, justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux comme votre interlocuteur qui vous disent, là, il faut accepter profondément sa condition, sa nature, on n'a pas à se transformer. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je commencerai par répondre, pour se transformer, il faut d'abord commencer par accepter complètement et profondément sa nature. Et la connaissance de soi, la célèbre connaissance de soi qui peut conduire si loin, je cite souvent à des personnes que je rencontre cette parole fort connue de saint Augustin, « Si je me connaissais, je te connaîtrais ». C'est quand même énorme. Bon, la connaissance de soi, elle commence au niveau psychologique. Est-ce que je réagis? Qu'est-ce qui me mène? Et notamment, où est-ce que je suis libre? Et où est-ce que je suis complètement dépendant? Et il y a un constat qu'on peut faire, que tout le monde peut faire et reconnaître, c'est que nous ne décidons pas de nos états intérieurs. Une bonne nouvelle a le pouvoir de produire une émotion heureuse, une mauvaise nouvelle a le pouvoir de produire une émotion douloureuse. Et ces sautes d'humeur, ces changements d'état d'âme, heureux, malheureux, inquiet, rassuré, si on regarde bien, ça se produit. Mais ça justifie une parole qui a beaucoup choqué de Gurdjieff disant « L'homme est une machine qui réagit aux influences extérieures ». Et le maître hindou qui, je peux dire qu'il m'a vraiment guidé comme un père spirituel, Swami Prajnapada, disait « L'homme est une marionnette dont l'existence tire les fils ». Mais tire les fils à travers ses réactions que nous ne décidons jamais. Sinon, nous déciderions, à partir de maintenant, je m'installe dans la paix, je m'installe dans la sérénité, je m'installe dans l'ouverture du cœur, ce que les Tibétains appellent la bonté fondamentale, et je n'en bouge plus. Si je décide librement, je déciderai à partir de maintenant, je suis heureux.
Ça veut dire qu'on n'est pas libre, finalement.
Non, c'est l'existence qui décide, qui ordonne. Sois fou de joie. Et je suis obligé d'être fou.
En fonction des circonstances extérieures.
En fonction des circonstances.
Donc là, on rejoint les grands thèmes, effectivement, ce que vous dites de la sagesse philosophique grecque, ce que les stoïciens ont très bien montré, Socrate aussi, c'est que finalement, l'homme doit acquérir la liberté intérieure par rapport à ses états d'âme et à ses passions.
Exactement. Et ça, c'est un dénominateur commun sur toutes les voies. Je ne peux pas vous citer avec précision où je l'ai lu, mais dans des ouvrages de la littérature des premiers siècles chrétiens, d'avant le Constantin. Traduit en français. Les démons n'ont de pouvoir sur nous qu'à travers nos émotions. Si on ne bute pas sur le mot les démons, on se dit, mais c'est très moderne ça. Les démons n'ont de pouvoir sur nous qu'à travers nos émotions. Ces états intérieurs.
Qui nous meuvent malgré nous. Mais alors, ça c'est un constat que je partage tout à fait. La question qui se pose, c'est pour acquérir cette liberté. En quoi faut-il se transformer? Parce qu'on pourrait dire une connaissance de soi peut-être suffire lorsqu'on se connaît. Par exemple, quelqu'un qui fait une psychanalyse, qui fait un travail de connaissance personnelle, il peut se dire j'identifie mieux qui je suis, comment je réagis face à telle circonstance et j'arrive à me maîtriser. Ce n'est pas forcément de la transformation, ça.
Mais cette transformation est à un certain moment une bascule qui se fait et où l'égocentrisme perd son pouvoir, et où les intentions, la manière de dire « voilà ce que moi je sens juste », je ne parle même pas d'impulsion très égoïste, « voilà ce que je sens juste », voilà, ça s'efface au profit d'une soumission où de la profondeur de nous-mêmes s'impose « voilà ce qui doit être accompli », avec une vision beaucoup plus vaste. Vision beaucoup, beaucoup plus vaste dans l'ensemble de la situation, de l'interdépendance. Voilà ce qui doit être accompli. Donc c'est une attitude qui, d'un autre point de vue, peut être évoquée aussi comme un esclavage. Swami Prajnapada avait une formule choc. Complete slavery is perfect freedom. L'esclavage complet, c'est la liberté parfaite. Ça veut dire, je n'ai plus le choix. C'est un état intérieur qui s'impose de soumission. Je me souviens de quelques souvenirs que j'ai de l'existentialisme qui régnait sur ma jeunesse, que Sartre a dit « l'homme est condamné à la liberté ». Et la libération, c'est de ne plus être condamné à la liberté. Mais en langage religieux, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Et de plus en plus, sentir j'obéis, je suis un serviteur, j'obéis, je suis un instrument d'une volonté différente de ce qui était ma volonté autrefois.
Vous donnez des très belles citations, ça me fait penser en écho à une citation d'Aristote qui disait que l'esclavage, c'est de dépendre de quelque chose de plus petit que soi, et la liberté, c'est de dépendre de quelqu'un de plus grand que soi.
Oh, superbe de nous faire des cadeaux comme ça.
Donc, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il peut y avoir une volonté supérieure qui n'est pas forcément personnelle, c'est pas forcément Dieu. Ça peut être quelque chose de plus cosmique, la nature, au sens spinozien du terme. Ça peut être quelque chose de supérieur, une transcendance, finalement. Oui. À laquelle nous avons accès à un moment donné par une ouverture de conscience. Comment ça se passe?
En accueillant aisément et de tout cœur cette idée de soumission.
Mais de soumission à qui, si on ne peut pas nommer cette personne? Dans le cas du monotisme, c'est plus facile, c'est alors, à Dieu. Mais
oui, pourquoi ne pas dire Dieu? Mais au nom de la volonté de Dieu, on a commis de tels crimes dans toutes les religions. Swami Prajnanpada, lui, disait simplement « the justice of the situation ». Qu'est-ce que la situation demande? Mais en considérant que nous ne sommes qu'un élément de cette situation. Et peu à peu, notre vision devient de plus en plus vaste. Un ressenti de l'interdépendance, de la solidarité, ce que j'appelle une attitude de zoom arrière. Le fonctionnement ordinaire fait beaucoup une sorte de zoom avant. Un aspect de nous, même pas la totalité de nous, entre en relation, d'attraction ou de répulsion, de désir ou d'aversion, avec un aspect de la réalité. Et le zoom arrière, ce serait une vision beaucoup, beaucoup plus vaste. Et par cette vision de plus en plus vaste, il y a de plus en plus de soumission à la totalité de la demande de la situation. Donc,
oui, on est plus...
il y a... de moi avec bonne volonté, moi
tout
avec
à fait.
Mais c'est on passe de moi.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ego qu'il faut dépasser dans sa prise immédiate finalement avec son intérêt immédiat, avec son ressenti immédiat. C'est un élargissement du regard.
Élargissement, l'ego se dissipe en devenant de plus en plus vaste. Un ego vaste, c'est le contraire d'un ego hypertrophié. Moi et tout par rapport à moi et un ego vaste, en comprenant, dans tous les sens du mot comprendre, comprendre veut dire aussi inclure, en comprenant de plus en plus d'éléments de la réalité. Est-ce que je peux comprendre ceux qui ne partagent pas mes idées, ceux qui critiquent mes idées? Et c'est complètement associé à l'idée très difficile, je m'en suis souvent rendu compte, à admettre pour un esprit moderne, de l'amour des ennemis. Quoi? Vous avez de l'amour pour les pédophiles, ces monstres? Je vous signale que c'est ce que propose Jésus dans l'Évangile, l'amour tout court, et c'est aussi ce que demande le Bouddha. Et c'est ce que nous pouvons arriver à développer en nous, cette, non pas approbation, mais compréhension, mais je dis bien dans les deux sens, comme en anglais « to understand » ou « to comprehend ». J'essaie de comprendre comme un psychologue ou un psychiatre chercherait à comprendre quel est le mécanisme qui fait la pédophilie. J'emploie cet exemple parce qu'il y a eu
l'actuel,
une grande indignation dans les médias. Et est-ce que je peux comprendre avec l'intelligence du cœur et pas seulement la réflexion intellectuelle? L'intelligence du cœur, entrer en communion avec quelqu'un dont c'est la nature, dont c'est peut-être l'asservissement. Et c'est-à-dire remplacer le jugement par la compréhension.
Et on pourrait dire la même chose par rapport à soi-même.
Pour commencer. En fait, la culpabilité, c'est une fonction de l'ego. Un ego vexé, que nous soyons mal conduits, que nous ne soyons pas déjà un saint. La culpabilité est une pure émotion. Ça n'a rien à voir avec, comment je vais dire, un remords lucide tel que j'ai fonctionné ce jour-là. J'ai été cause de souffrance. et ça devient une grande motivation pour changer. Alors ça, c'est positif. Mais si c'est simplement être un peu plus divisé intérieurement, tant que nous sommes divisés intérieurement, et là encore l'Évangile le dit bien, que peut un royaume divisé contre lui-même, il nous est beaucoup plus difficile d'entrer vraiment en communion avec l'autre.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir d'Arnaud Desjardins qui nous parle de la transformation de soi, à propos notamment de la sortie de son très beau livre de dialogue avec Jean-Louis Siani. Oui, chacun de nous peut se transformer, chez Albin Michel. Juste avant de continuer cette conversation, Arnaud, vous avez choisi cette musique indienne. De qui s'agit-il ?
Je me suis fait plaisir pour me rappeler les années que j'ai passées en Inde. Et des souvenirs heureux et précieux. C'est un aspect de la culture hindoue et religieuse connue, ces chants qu'on appelle bhajan ou kirtan. Et cela a été enregistré par les swamis qui entourent une femme justement célèbre, Mahamrita Nandamayi, connue aussi sous le nom d'Ama, qui voyage beaucoup et qui est connue.
Parce que c'est elle qui embrasse tout le monde.
Oui, qui prend dans ses bras. Qui prend vraiment dans ses bras. Et je me souviens d'avoir été assis à ses pieds pendant des nuits entières. Sauf que moi, au bout de quelques heures, j'étais obligé de faire quelques pas, alors qu'elle, elle ne bouge pas. Chaque personne, comment elle, une seconde de regard, et comment elle prend les gens dans ses bras, et au bout de 6 heures, 7 heures, 11 heures, ça n'en finit plus. La même disponibilité. Comme une mère qui embrasserait son enfant, son bébé bien-aimé. Je prends position nette et claire, je suis un admirateur convaincu par
Ama, qui vient en France tous les ans, je crois, à Paris et Toulon.
Oui.
On essaiera de la recevoir, mais je crois que c'est très difficile de faire un entretien avec elle. C'est pas sa mission,
non,
elle est plutôt là pour transmettre
de l'amour. Elle a parlé... dans des grands colloques, elle a parlé à l'UNESCO, elle a parlé, cette femme sans instruction.
Oui, puis elle a des fondations caritatives très importantes en Inde.
Énorme, oui, oui.
Alors, on parle justement de maître, en l'occurrence une femme, mais il y a effectivement un certain nombre de maîtres spirituels que vous avez rencontrés. Quel est le rôle du maître spirituel ou du gourou, comme on dit en Inde, il faudrait d'ailleurs nous donner une explication de ce mot, qui est très mal vu en Occident, dans la transformation de soi?
Si on n'est pas un génie, un Mozart de la spiritualité, on a besoin de quelqu'un qui nous enseigne, qui nous guide, que vous appeliez ça un instructeur, un éducateur, un moniteur. Voilà. Je me tourne vers quelqu'un qui est un expert en violon parce que je voudrais apprendre à jouer du violon. Ça, c'est la réponse la plus simple qu'on puisse donner. Et en fait, c'est assez étonnant de voir combien ce mot « gourou », qui est un mot éminemment respecté pour les hindous et les bouddhistes du Mahayana, est devenu comme une sorte d'injure en français. Charlatan, escroc, traiter quelqu'un de gourou, c'est très méprisant.
Je fais une petite parenthèse juste pour éclairer les choses sur le mot gourou. Je crois que tout simplement, on a utilisé un mot qu'on connaissait mal pour l'appliquer à des personnages qui, au lieu d'aider des disciples pour les rendre plus libres, finalement, essayent de les asservir à un pouvoir personnel. Donc c'est pour ça qu'on a détourné un mot qui était beau pour qualifier des personnages qui sont tout à fait contestables, parce que ça se discerne un maître spirituel. Il y a des vrais maîtres spirituels et il y a des faux maîtres spirituels.
Mais tout faux maître spirituel expliquera qu'il est un vrai maître spirituel, comment discerner, mais qu'il faut se méfier des faux.
Mais est-ce que le discernement, c'est pas justement que le vrai vous rend plus autonome, le faux vous rend plus dépendant? Est-ce que ça pourrait pas être un critère de discernement?
C'est avant tout. Il y a une femme qui est beaucoup venue quand nous étions dans le Gard à Fondizières. Et je lui ai dit, vous devriez faire des retraites dans un monastère de cisterciennes dont je connaissais la maîtresse des novices, ou la prieure, une certaine sœur Marie-Samuel avec qui je suis toujours en relation. Je le sens, en fait. Ah bon? Aujourd'hui, elle est moniale cistercienne. Elle a fait ses vœux définitifs après avoir fait son... Bon. Donc, le but, c'est d'aider chacun à trouver sa propre voie. Alors, il y a plusieurs personnes qui se sont engagées auprès d'Arnaud Desjardins et qui, plein d'amour et de gratitude pour Arnaud Desjardins, suivent aujourd'hui une autre voie que j'ai pu les aider à découvrir. Et ça, c'est inspiré d'une parole d'un des grands swamis hindous du début du siècle, un anglais, de ces rares anglais qui ont pris un peu les hindous au sérieux, d'en faire des adorateurs d'un dieu à tête d'éléphant, et qui lui a dit « Mais pour devenir votre disciple, est-ce qu'il faut que je me convertisse à l'hindouisme ?» Et ce swami a répondu « Non, 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 je vous convertirai à votre propre religion. » Eh bien, on peut dire d'une manière plus précise, le rôle d'un maître spirituel, c'est de convertir chacun à sa vraie nature, à son vrai destin spirituel.
Alors, à la fois, il faut être pleinement soi-même, parce que vous venez de le dire, d'être converti à sa vraie nature. Donc, il faut aller jusqu'au bout de sa condition, de la culture dans laquelle on est né. Si vous êtes né chrétien, restez chrétien. Si vous êtes né hindou, restez hindou. C'est un peu ça, le fond du message. Et en même temps, il faut se transformer, il faut changer aussi. Alors, comment jouer de ce paradoxe où être fidèle à soi-même et se transformer?
Plus on se transforme, plus d'abord on approfondit vraiment l'enseignement dont on se réclame. Qu'est-ce que c'est être un chrétien? Qu'est-ce que c'est prier pour ceux qui nous persécutent, bénir ceux qui nous maudissent? Ce sont des paroles de se demander que je suis en mesure de mettre ça en pratique. Où ça me paraît très beau, mais impossible. Plus on approfondit la compréhension de sa propre voie, plus on est en mesure de voir, non pas ce qui nous sépare, mais ce qui nous unit aux autres. Il y a une très belle phrase dans le Coran, je cite de mémoire, « Dieu vous a fait différent pour que vous appreniez à vous connaître. » Ça, c'est l'attitude de, je ne dis pas la grande masse des musulmans, mais de tous les maîtres et disciples soufis. On peut le voir comme une cacophonie. Ils se réclament tous de la vérité, ils se contredisent tous. On peut le reconnaître comme une source de guerre, de conflit, de haine, mais même à l'intérieur des religions. Entre sunnites et chiites, il y a des conflits pitoyables. Entre catholiques orthodoxes au moment des croisades. Mais on peut le voir comme une richesse. Vraiment une richesse. Heureusement qu'il n'y a pas que le couscous et le tagine, qu'il y a aussi la cuisine japonaise, la cuisine chinoise, qu'il y a aussi la cuisine méditerranéenne. Et bon, heureusement qu'il n'y a pas que une seule forme de musique. Et personnellement, voilà comment les choses se sont imposées. Pour moi, je suis né de race blanche. Je ne suis pas sénégalais ni jaune. Bon. Je suis né dans une famille protestante. Je ne suis pas né dans une famille musulmane afghane, ni dans une famille d'hindous à Bénarès, protestant. Bon. J'ai été baptisé chrétien. De même que je ne vais pas aller chez un esthéticien pour me faire faire une peau jaune et des yeux bridés ou une peau noire et des cheveux crépus, j'assume, c'est mon destin, je suis né dans une famille protestante, huguenote. J'ai été très, très attiré par le catholicisme, la mystique catholique, Thérèse d'Avila, encore plus que Saint Jean de la Croix, bon, les pères de l'Église, Grégoire de Nice, Clément d'Alexandrie, ça a été une nourriture pour moi. Mais je sentais, il n'y a pas de nécessité de conversion. Il y a cette ouverture, cette rencontre, en considérant les différences comme une richesse.
Oui, mais en même temps, c'est toute cette rencontre avec ces maîtres hindous, notamment Swami Prajnanpan, oui, qui vous a permis d'aller jusqu'au bout de la profondeur de votre propre tradition. Est-ce que vous auriez pu la découvrir sans ce détour par l'Inde ?
Non. Non, j'ai cherché beaucoup. Mais j'aurais pu trouver quelque chose si ça avait été dans ma nature de devenir moine. J'ai été très, très impressionné, convaincu, et je reviens pas en arrière, de beaucoup de séjours que j'ai faits en 1958 et dans les années qui ont suivi, dans cette abbaye de Bellefontaine. Les entretiens avec Don Emmanuel, qui a beaucoup compté dans mon existence, à cause de lui que mon propre fils s'appelle
Emmanuel.
Voilà. Le prieur, le maître des novices de l'époque. Mais c'est une vocation de moine. Qu'est-ce que un moine peut pour un laïc qui à la fois a une intense nostalgie de spiritualité au plus haut niveau et en même temps reconnaît en lui d'être fasciné par les femmes un peu séduisantes, d'avoir soif de réussite professionnelle. Et donc, le don, je pourrais dire le talent de Swami Prajnanpad, c'était de nous proposer une voie exigeante, pas au rabais, mais adaptée à notre statut de laïc, et d'autre part, des moyens très précis et très efficaces pour dépasser ce monde des attachements, des désirs, des fascinations, et en même temps des refus, des peurs, le monde de l'attraction et de la répulsion, pour employer les termes connus.
Et oui, donc c'est tout un chemin intérieur de travail sur soi, de transformation de soi, donc que vous avez fait et que vous continuez de faire avec d'autres, puisque vous transmettez aujourd'hui cet enseignement. C'est un chemin difficile, j'imagine que ça se fait pas d'un coup de baguette magique. C'est un travail d'attention, de vigilance, d'effort sur soi. C'est pas quelque chose, en fait, ça me paraît important d'insister sur le caractère, je dirais, exigeant du chemin spirituel, parce que beaucoup de gens peuvent penser que ça se fait comme ça, il suffit d'appliquer trois recettes et ça marche. C'est pas tout à fait comme ça.
On s'aperçoit que ça marche. Quelque chose de nouveau, d'inhabituel, nous permet de vivre quelque chose que nous n'avions pas connu jusque-là. Certaines personnes qui font une semaine d'introduction à la méditation vipassana, ils n'ont jamais cherché à s'intérioriser un moment, à entrer en contact avec leur profondeur. C'est une révélation. Ça y est, ah, j'ai trouvé. Il y a un avant et un après. Seulement 3 mois ou 6 mois après, les personnes peuvent être brisées par une souffrance, submergées par des angoisses. Et cette transformation, bon, ben, il faut le reconnaître, ça a toujours été dit, toujours, toujours. C'est une entreprise, c'est une grande aventure.
Alors, justement, est-ce que c'est une aventure réservée à une élite ? C'est-à-dire, est-ce que le travail ultime qui permet d'atteindre ce qu'on appelle l'éveil dans le bouddhisme, la sainteté dans le judaïsme ou le christianisme, enfin, est-ce que ce travail de transformation profonde de soi, est-ce que c'est réservé à une petite élite ou est-ce que tout le monde peut y être appelé en cette vie, selon ses moyens ?
Nous connaissons la parole célèbre, il y a beaucoup d'appelés. Et peu d'élus et des paroles qui sont dures. La voie étroite, il y en a peu qui s'y engagent, et la voie large de la facilité, il y en a beaucoup plus. Même l'enseignement de l'Évangile qui est fondé sur l'amour, le pardon, la compréhension, c'est prodigieux, reconnaît que C'est pas qu'il suffit pas de vouloir l'éveil pour être éveillé, de vouloir la sagesse. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Bon, dans le christianisme, le procès de Jésus, la condamnation, le mépris, l'abandon de ceux qui l'entouraient, la crucifixion, c'est une immense image d'un prix à payer.
Oui, c'est une mort à soi-même pour renaître, comme vous disiez.
Voilà. Non, c'est pas bon marché.
Mais alors, pour ceux qui n'ont pas fait ce choix de consacrer leur vie à la quête spirituelle, j'imagine qu'il est quand même possible de faire un travail important dans une vie laïque aujourd'hui.
Comment ça peut se faire ? On peut même, comme je le disais tout à l'heure, suivre un chemin très exigeant où on se sent à part entière dans cette démarche. Dans le monde des formes, comme on dit en Inde, et pas le monde du renoncement, comme d'être swami dans un ashram sérieux avec tout ce que l'exigence représente, ou moine, ou monial, ou nonne, dans un monastère catholique ou un monastère zen. Mais il y a un prix très élevé à payer.
Mais ça implique de faire certaines techniques, ou de prier, ou de méditer, c'est-à-dire c'est un travail quotidien, c'est une exigence c'est quotidienne.
Peu à peu, ça devient plus que quotidien, ça, peu à peu, de minute en minute. Veillez et priez sans cesse. C'est l'évangile. Qu'est-ce que j'oublie. Comme, être en état de vigilance. Alors, comment faire pour que ce monde, si nous ne sommes pas moines, moines zen ou moines trappistes, que ce monde, à la fois fascinant et horrifiant, au lieu de nous faire tout le temps oublier l'essentiel, tout le temps oublier Dieu, tout le temps oublier l'indestructible, nous fasse tout le temps souvenir. Et là, il y a une possibilité. Oh, que c'est beau! Et Dieu! Oh non! Et Dieu! Que ça se grave en nous, que chaque réaction que le courant de l'existence a pouvoir de produire en nous, attraction ou répulsion, désir ou aversion, inquiet ou rassuré, etc. Nous fasse nous souvenir de l'essentiel, nous fasse nous souvenir que nous sommes engagés sur le chemin. Ce mot souvenir, il est capital, autant que le mot vigilance ou le mot veille.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel de Frédéric Lenoir en compagnie ce soir d'Arnaud Desjardins et nous parlons de la transformation de soi à propos de son dernier livre, Dialogue avec Jean-Louis Siani. Oui, chacun de nous peut se transformer chez Albin Michel. Alors nous venons d'écouter des très belles notes de piano composées par Gurdjieff, mais je donne tout de suite la parole à Lélie Anvar. Bonsoir Lélie.
Bonsoir.
Pour nous lire un texte qui est en lien avec le sujet, mais de qui ?
Alors, c'est un texte, je ne dirais pas que c'est un texte de Swami Prajnampad, c'est un texte, en fait, écrit par Srinivasan et qui rapporte, en fait, l'enseignement, qui raconte les entretiens qu'il a eus avec Prajnampad. Et d'ailleurs, il explique qu'au fond, Prajnampad n'a jamais vraiment pris la plume, théorisé, écrit des livres théoriques et qu'il préférait de loin l'enseignement oral, cette transmission de personne à personne et que ce sont finalement les personnes de son entourage, ce qui semble être quand même très souvent le cas avec les sages et les maîtres spirituels. En tout cas, ce sont les gens de son entourage qui ont recueilli ses paroles, soit directement, soit évidemment quelques années plus tard. Et donc le texte que j'ai choisi, qui est extrait de ces entretiens, que d'ailleurs Arnaud Desjardins présente, hein, c'est aux éditions L'Originel, c'est un texte qui s'intitule « La spiritualité, c'est l'indépendance ». Et ça reprend un certain nombre de thèmes que vous avez abordés au début de cet entretien, à savoir qu'au fond, la quête spirituelle est une quête de liberté intérieure, et que la vraie liberté intérieure, et celle qui survient lorsque on a réussi à se libérer de toutes les chaînes émotionnelles qui nous retiennent, qui nous attachent, soit effectivement parce qu'on a désir de choses, soit parce qu'on a peur d'autres choses, soit parce qu'on veut rejeter ce que l'on croit être mauvais du destin et qu'on veut attirer à nous ce que nous croyons être bon. Et on va voir justement que vraiment c'est au cœur du sujet. Pour Prajnampad, la liberté est au cœur du travail spirituel. « La spiritualité, c'est un autre nom pour l'indépendance. Dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, c'est s'éloigner du bonheur. Quand vous êtes en état de dépendance, vos mouvements sont limités. Vous restez confiné dans un espace étroit. Si vous êtes esclave de vos désirs, vous ne pouvez pas être heureux et libre. Votre bonheur dépend de la satisfaction de vos désirs, ce qui est souvent impossible et vous fait souffrir. Mais si vous êtes maître de vos désirs, vous pouvez les satisfaire quand c'est possible, les réfréner s'il n'y a pas de possibilité de les satisfaire. Et ainsi, vous serez heureux. La spiritualité est une attitude d'esprit, ne dépendre que de soi. C'est cela, la spiritualité. Essayez de voir et de sentir ce qui est, et non d'attendre que les choses soient comme vous aimeriez qu'elles soient. Cette attente est la tragédie de la vie humaine. Et suit une histoire que raconte Prajnampad, que je résume ici parce qu'elle est assez longue. C'est l'histoire de cet homme qui un jour perd son cheval et les gens du village viennent lui dire « Oh, quel malheur, tu as perdu ton cheval !» Il dit « Mais c'est pas très grave !» Puis au bout de quelque temps, le cheval revient avec une jument, les gens du village viennent le voir et lui disent « Ah, quel bonheur, tu as trouvé deux chevaux, maintenant tu en as deux. » Il dit « Mais ça, il ne faut pas être excessivement heureux de cela, il adviendra ce qui doit advenir. » Puis bon, il a d'autres aventures, entre autres son fils tombe de cheval, il se casse une jambe et tout le monde lui dit « Ah, quel malheur, ton fils s'est cassé la jambe, maintenant il est handicapé. » Quelque temps plus tard, il y a une guerre, dont tous les jeunes gens partent à la guerre, sauf son fils, puisqu'il évidemment il est devenu handicapé. Et les gens viennent lui dire « Ah, quel bonheur, ton fils s'était cassé la jambe, etc. » Et lui reste d'humeur égale tout de long, en disant justement qu'importe ce qui arrive, ce qu'il faut c'est rester égal à soi-même. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire être égal à soi-même, ça veut dire vraiment en accord avec sa nature profonde. Et en même temps, ça implique un travail sur soi et sur ses émotions. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ces entretiens, c'est que très souvent, l'enseignement est suivi d'une petite histoire qui illustre et qui montre que, évidemment, il faut être pratique. Il faut entrer dans le monde avec une pratique spirituelle, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision des choses.
Si, je suis d'accord. Et Srinivasan, c'est extrêmement fidèle à Swamiji. À mon avis, il prenait très consciencieusement des notes, puis en sortant de son entretien, et ce sont ces notes dont nous bénéficions.
Oui, on voit que ça ne fait pas système, c'est-à-dire c'est vraiment adapté aux gens qui lui posaient des questions, ça dépend de la circonstance. Alors, je vous ai demandé, Arnaud Desjardins, de nous apporter un texte qui vous plaise particulièrement, et il se trouve que vous nous avez apporté un texte qui semble faire écho à ce que je viens de lire, et qui est extrait de La sagesse et la destinée de Maurice Maeterlinck, ce qui est assez inattendu, parce que moi je connaissais Maeterlinck comme dramaturge.
Oui, L'Oiseau bleu notamment.
Absolument.
Qui était un triomphe en 1910.
Oui, et effectivement c'est un auteur de drame.
Nous l'avons oublié.
Oui, non, mais on l'a pas tant oublié, parfois ça revient, mais c'est vrai qu'on le connaît comme auteur de drame. Mais c'est vrai qu'on sent dans ses drames, au fond, tout un questionnement philosophique qu'il a mené tout au long de sa vie. Et dans ce texte que vous nous avez apporté, qui est effectivement un essai philosophique, on voit que, évidemment, les drames sont ces pièces de théâtre sont le reflet de son propre cheminement intérieur.
J'ai apporté ce texte parce que, à l'âge de 23 ans, je n'avais jamais entendu le mot yoga ou yogi. J'ai reçu une instruction religieuse, j'étais en fait très superficiel, et tout d'un coup dans la bibliothèque de ma mère, je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris de sortir ce livre-là, collection Nelson, ça date tout de suite d'il y a 100 ans, et je lis des extraits d'une anthologie de La sagesse et la destinée, et ça a été le choc, la révélation, le sage, pas la sagesse, le sage, le personnage du sage. Donc c'est un hommage à mes 23 ans.
Eh ben, nous allons écouter ce texte-là.
Absolument. Et d'ailleurs, à la fin du texte, il évoque en fait Socrate et Jésus côte à côte en disant précisément qu'ils étaient des sages dont la présence aurait pu transformer les grands héros de l'Antiquité s'ils avaient eu la chance de les connaître et de les côtoyer. Et ça revient effectivement, ça renvoie à ce que vous avez dit sur l'importance de la présence du sage dans la vie de chacun. À mesure que nous devenons sages, nous échappons à quelques-unes de nos destinées instinctives. Il y a dans tout être un certain désir de sagesse qui pourrait transformer en conscience la plupart des hasards de la vie. Et ce qui a été transformé en conscience n'appartient plus aux puissances ennemies. Une souffrance que votre âme a changée en douceur, en indulgence ou en sourire patient est une souffrance qui ne reviendra plus sans ornement spirituel. Et une faute et un défaut que vous avez regardé face à face est une faute et un défaut qui ne peuvent plus vous nuire et qui ne peuvent plus nuire aux autres. Il existe des rapports incessants entre l'instinct et le destin. Ils se soutiennent l'un l'autre et ils rôdent la main dans la main autour de l'homme inattentif. Mais tout être qui sait diminuer en lui la force aveugle de l'instinct diminue tout autour de soi la force du destin. Il semble qu'il crée une sorte de lieu d'asile, inviolable en proportion de sa sagesse, et ceux qui passent par hasard dans la zone éclairée de sa conscience acquise n'ont rien à craindre du hasard tant qu'ils s'attardent en cette zone. Placer Socrate et Jésus-Christ au milieu des Atrides, et l'Orestie n'aura plus lieu aussi longtemps qu'ils se trouveront dans le palais d'Agamemnon. Et s'ils se fussent assis sur le seuil des demeures de Jocaste, Œdipe n'eût pas songé à se crever les yeux. Il y a des malheurs que la fatalité n'ose entreprendre en présence d'une âme qu'il a vaincue plus d'une fois, et le sage qui passe interrompt 1000 drames.
On entend bien Arnaud Desjardins qu'à travers ses textes, notamment, que le but ultime de toute recherche spirituelle, c'est une vraie liberté.
Une liberté intime, en ce sens que, je ne sais plus quel sage dire, enfin l'origine de cette parole, le prisonnier est peut-être beaucoup plus libre que le geôlier. Si le geôlier est esclave de ses peurs et de ses désirs et des réactions qui se lèvent en lui, esclave de son égoïsme, et que le prisonnier est un lama tibétain ou un authentique chrétien, ça devient véridique. Il s'agit d'une liberté intime, la liberté qui nous permet d'être fidèles à ce que propose la religion dont nous nous réclamons. Est-ce que je peux être établi dans l'amour? Nous avons, dans le lieu que j'anime, construit, ça a été une petite mosquée, complètement musulmane, une petite chapelle, et une salle d'études juives. Ce n'est pas du syncrétisme, c'est que chacun trouve ce qui correspond à sa, son rattachement, s'il en a un. Et dans la chapelle chrétienne, quelque chose qui est familier au temple protestant, d'écrire des versets sur le mur. Et nous avons écrit « Celui qui demeure en Dieu, non, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. »
L'évangile de Saint Jean, chapitre 14.
Oui, parce que c'est dans une épître aussi.
C'est aussi la première lettre de Saint Jean. Oui.
Voilà, la première lettre, c'est bon. Est-ce que j'ai la liberté de demeurer établi dans l'amour? Non. Quand quelqu'un m'énerve, je ne l'aime plus. Si quelqu'un m'intente un procès que je considère comme injuste, je ne peux plus l'aimer. Tout, et d'une manière générale, tout ce qui me contrarie m'arrache, m'exile de l'état d'amour, de demeurer dans l'amour. On peut l'exprimer comme ça. Est-ce que j'ai la liberté de demeurer dans l'amour? Non, aujourd'hui non. Je veux gagner cette liberté et que plus rien ne puisse m'arracher à un état d'amour. Et on dit, et ça me bouleversait quand j'en étais si loin, le sage aime comme le feu chauffe et éclaire. Toute personne qui s'approche du feu est chauffée et éclairée.